Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, deux coups de cœur ciné cette semaine. Le premier consacré au film de Robert Guédiguian, La Pivoleuse. Il va nous rejoindre dans un instant. Le cinéaste marseillais sera avec nous. Et puis, on va parler également du film Le Choix du Pianiste, qui sortira également mercredi dans les salles. À cette occasion, la productrice Nelly Kavski, le réalisateur Jacques Côte-Mesguine et les comédiens seront tous là avec nous. On aura Laurent Scott, André Manoukian, Pia Lagrange, Joscar Le Sage et Zoé Adjani, ils seront tous là pour en parler. Et puis on va parler également de Supermal, la fiction qui vient de débarquer sur Netflix. Nouvelle fiction signée Noémie Saglio, à qui l'on doit déjà Connasse, Princesse des Cœurs ou encore la série Planqueur. Noémie va tout nous dire. Et puis en fin d'émission, c'est l'événement, elle est nommée Révélation Féminine aux Victoires de la Musique. On est tous derrière elle évidemment. Stilto sera avec nous aujourd'hui pour parler évidemment de sa musique. Et on va dire, il faut que tu m'aimes, Stilto. Ah oui, ça va être le jeu de mots. En fin d'émission, qui vous attend avec la chanteuse qui sera avec nous. Alors, vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui. Hein, dans Chut, on écoute la télé. C'est parti.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné est consacré à La Pivoleuse de Robert Guédiguian, qui est avec nous aujourd'hui, notre invité. Bonjour Robert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va pouvoir découvrir ce film au cinéma ce 29 janvier avec Ariane Ascaride. On va découvrir l'histoire de Maria, la soixantaine, qui pour arrondir un peu en quelque sorte son revenu précaire avec son mari et sa petite retraite, va aller s'occuper de personnes dépendantes, personnes âgées dépendantes. Et pour satisfaire un peu en gros son petit-fils, qu'elle rêve de voir faire une carrière de piano absolument grandiose, va aller voler en quelque sorte, mais... Comment ne pas aussi avoir de l'empathie avec ce personnage qui est hyper attachant? On a affaire là à justement ce personnage qui est hyper attachant, qui à la fois fait quelque chose de pas très quand même sympathique.
Oui, c'est-à-dire, non, je trouve pas que ce soit, moi, si antipathique que ça, ce qu'elle a fait. Parce qu'en fait, au fond, d'abord, elle vole très très peu. Elle vole tout petit peu, juste ce qu'il lui faut, pour finir de payer son crédit aussi. Et même pour parfois, c'est vrai, petit plaisir. Elle va aussi, elle a beaucoup les huîtres.
Oui, la douzaine d'huîtres.
Voilà. Donc elle achète effectivement aussi un peu des quelques huîtres. Et puis, il y a cet objectif qui est, effectivement, elle aime beaucoup la musique classique et son petit-fils joue de la musique classique, il joue pas mal et il lui faut un nouveau piano pour qu'il puisse passer concours d'entrée dans un conservatoire plus prestigieux, enfin on imagine, hein, je veux dire, voilà. Et ça, pour ça, elle franchit un petit peu la ligne, c'est-à-dire qu'elle vole un petit peu plus que d'habitude. Parce qu'en fait, ce qu'elle prenait d'habitude, grosso modo, ça correspond à ses heures supplémentaires, on pourrait dire. Elle dit même, elle a cette phrase lorsqu'elle s'est fait attraper, parce qu'elle va se faire attraper. Elle va être mortifiée d'ailleurs, très humiliée. Parce que c'est une brave femme, évidemment, ce qui est un faux.
C'est ça, pour ça que je dis que ça la rend hyper attachante. Elle est hyper attachante.
Bien sûr, bien sûr. Et quand elle va se faire attraper, elle dit à la juge qui, où elle est confrontée, elle dit « j'aurais dû leur demander, me l'aurait donné ». cet argent-là. Ce qui est probablement vrai. Elle aurait demandé 10 euros aux gens chez qui elle travaille, lui aurait donné. D'autant qu'elle n'économise pas sa peine, hein. Je veux dire, on l'appelle à minuit parce qu'il y a un orage, elle sort. Donc elle fait des heures supplémentaires en permanence. Elle adore ces gens-là et ces gens-là l'adorent.
Voilà. Parce qu'elle aime réellement ce qu'elle fait. Elle aime réellement s'occuper, justement. C'est peut-être ça qui fait la différence aussi qu'on s'attache à ce personnage, c'est qu'elle aime vraiment s'occuper de ces personnes-là.
Bien sûr. Au fond, c'est un film sur le partage, hein, je veux dire, c'est un film sur le partage, et c'est vrai que on peut imaginer une autre époque, là aussi, un personnage dit c'est l'ère du temps aujourd'hui, on partage plus. On peut imaginer une autre époque où on partageait un petit peu plus. Et dans ce cas-là, elle aurait même pas volé. Parce que les voisins auraient été peut-être informés du fait que ce petit jouait du piano et qu'il jouait pas mal, et lui aurait peut-être fait, l'aurait peut-être subventionné. Mmh. Voilà, lui aurait donné un petit peu plus, puisque ils ont un peu plus de moyens. Ils sont pas très riches non plus, mais ils ont un petit peu plus de moyens. Voilà. C'est la nécessité du partage, en fait. C'est comme dans tous mes films, j'appelle au partage, en fait. Voilà. Et ce partage-là, on l'obtient comme on peut. Là, en l'occurrence, c'est par des petits larcins.
Ce que j'ai trouvé très beau, Robert, c'est justement qu'on prend le temps. Dans ce film, il y a un rythme qui permet de prendre le temps de contempler Marseille, de contempler ces décors qui défilent devant nous un peu à la manière de Pagnol. On ressort justement de tous ces films qui sont tournés à Marseille avec un rythme effréné, avec des voitures qui courent dans tous les sens, avec des bandits qui se tirent dessus. Là, c'est complètement le contre-pied. C'est ça qui fait du bien de voir Marseille sous un autre angle.
Oui, je crois que comme beaucoup de villes du Sud, je veux dire, le climat est présent, la mer est présente. C'est vrai que on n'est pas dans une action, dans des vendeurs de drogue et dans de la délinquance. Si vous voulez, c'est le contraire. Oui, pour dire le contraire, je dirais c'est le contraire de Bagnor. Voilà. Bagnor, qui est un film pour moi ignoble sur des sales flics qui font le boulot face à des sales délinquants, quoi. Donc c'est le contraire, en fait, là. On montre des rapports entre des gens qui sont probablement, d'ailleurs, des rapports beaucoup plus majoritaires dans le pays, dans notre pays, que ceux qu'on voit dans Bagnor, bien sûr. Et ça, c'est des rapports à taille humaine. Et donc, c'est filmé aussi de cette manière-là. Ça, c'est filmé. On a le temps de voir les corps et les visages des gens, leurs regards. On a le temps de laisser le jeu des acteurs se développer. Donc, on va pas vite pour aller vite. C'est pas une écriture Netflix, quoi. C'est une écriture de cinéma. Comme j'aimerais voir plus de films.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de très cinématographique qui fait du bien aussi, avec une jolie histoire. Et alors moi, ce que j'ai aimé, alors je vais essayer d'expliquer sans dévoiler quoi que ce soit, ce qui va pas être simple, c'est qu'effectivement, quand Maria va se faire prendre et que les soupçons vont commencer à se porter, il va en découler quelque chose de très surprenant et un switch qui va justement déboucher sur une histoire d'amour et un coup de foudre totalement improbable. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce film. Mais pour savoir justement ce coup de foudre où il se situe, il faudra aller voir le film.
Tout à fait, il faut aller voir le film. C'est vrai que ça, c'est pas possible de raconter ça, parce que il faut surtout pas, parce que c'est tellement inattendu, en fait. Pour moi, je suis très content de ce coup de théâtre, en fait, de ce coup de cinéma. C'est-à-dire qu'on peut pas penser une seconde que le film va prendre ce virage-là, quoi. Là.
Exactement, c'est ça qui est chouette. La Pivoleuse, ça sort mercredi au cinéma. On continue à en parler avec vous, Robert. Et on va écouter la bande-annonce et puis on revient juste après, parce qu'on va prendre le temps, là aussi. À tout de suite.
Votre courrier.
Et les bulots, ils sont où?
Ben, ils sont là. Vous pourriez me signer des chèques d'avance? Je me suis servi du dernier. J'ai fait toutes les courses.
Merci, ma belle.
Je mets la monnaie dans le compotier. Combien il reste sur le compte?
Il n'y a plus rien.
Tu as recommencé à jouer? C'est sûr, il va l'avoir, son concours.
Arrête, tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se payer ça.
J'ai appelé son professeur de piano au conservatoire. Il est d'accord pour lui donner des cours particuliers.
Mais tu le payes comment?
J'ai pris du travail en plus.
La Pivoleuse, le film à ne pas rater au cinéma, dans les salles, justement ce 29 janvier. Robert Guédiguian est avec nous pour en parler. Alors évidemment, Marseille, c'est un personnage à part entière aussi du film.
Oui. Fait Marseille, même ce quartier-là de Marseille, c'est l'Estaing qui est tellement un lieu de paradoxe, ceci dit, de contradiction, parce que c'est un lieu où il y a toujours, évidemment, au fond, des bateaux, des usines, des grues, des conteneurs. Et en même temps, c'est magnifique, parce que c'est aussi des collines qui dévalent dans la mer. Hein. Donc, c'est pas un hasard si les impressionnistes, effectivement, après Cézanne, je veux dire, se sont tous mis à les peindre là-bas. Hein. Je veux dire, les cubistes aussi, d'ailleurs, Braque, bon, etc. C'est parce que le décor est vraiment très, très beau. C'est l'extrême nord de la baie de Marseille, en fait.
Le casting Et assez dingue, Jean-Pierre Darroussin, qui est magnifique, Grégoire le Prince Ringuet, il y a tout plein de beaux mondes dans ce film aux côtés d'Ariane Ascaride.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les mêmes, hein, ceci dit, c'est la troupe, quoi, en fait.
Les fidèles, hein, j'ai l'impression.
Oui, oui. Grégoire, par exemple, le Prince Ringuet, ça fait, je crois, 5-6 films qu'on fait ensemble. Donc, depuis l'Armée du Crime, d'ailleurs, depuis le film sur la résistance, il y avait beaucoup de jeunes gens qui ont été recrutés à cette occasion, on pourrait dire, Lola Neymark, Robinson Stevenet. Donc, eux sont venus agrandir la troupe, enfin la troupe, grosso modo, les anciens de la troupe au mon âge, enfin, c'est Gérard, Mélard, Jean-Pierre Darroussin, Ariane, et maintenant ils ont des enfants, et même, ils ont même des petits-enfants, donc voilà. Enfin, c'est une belle histoire qui continue, qui se développe et qui est à l'image de nos vies, quoi.
C'est rassurant pour vous, justement, quand on fait un film, d'avoir déjà un socle assez solide de personnes sur lesquelles on peut compter, qu'on connaît par cœur aussi, et puis avoir des petits nouveaux qu'on rajoute au fur et à mesure. Ça me fait penser à d'autres de troupes de fidèles, comme celle, par exemple, de Philippe Lachaud ou Les Splendides à l'époque, qui aimaient se réunir dans des films et que les réalisateurs aimaient, justement, voir se réunir ensemble.
C'est rassurant et à la fois, j'allais dire, ça augmente notre exigence. En fait.
Oui, c'est pas plus facile pour ça.
Non, on veut au contraire presque, en plus de l'enjeu du film, il y a l'enjeu de prouver que une troupe ça peut exister, ça peut durer longtemps. Donc on a presque une vigilance à ce qu'on soit encore meilleur que d'habitude, encore meilleur que le film précédent, pour montrer, je veux dire, la face du monde qu'un collectif c'est une belle chose, qu'il n'y a pas de vie sans collectivité et qu'effectivement il faut absolument réussir une harmonie.
La Pivoleuse, alors, à la base, c'est un magasin de musique dans le film. Tout va partir un peu d'une histoire de piano, vous verrez, de chèque de caution. C'est un petit peu de là que part la base du film. Il existe vraiment ce magasin de musique où il a été créé pour le film? Est-ce que la Pivoleuse s'est complètement inventée? Et si ça a été inventé, d'où ça vient?
Non, non, ça a été inventé. Enfin, le magasin de musique existe, encore que on en a tourné une partie en studio, bien entendu, parce qu'il se passe quelque chose dans ce magasin de musique, on ne peut pas le faire dans le vrai magasin, bien entendu. Donc on a inventé les sous-sols du magasin de musique, ça s'est fait un studio. Et ce magasin, il s'appelle, c'est le plus vieux magasin de Marseille, en fait, de musique, mais il ne s'appelle pas La Pivoleuse, en fait.
Et comment c'est venu, alors, La Pivoleuse?
Ben, c'est La Pivoleuse, en fait, c'est inspiré de l'opéra de Rossini, qui s'appelle La Pivoleuse, et qui est une histoire qui a des affinités avec cette histoire-là. C'est effectivement une fille qui vole, enfin, c'est pas. Et puis Rossini, c'est pour moi, c'est le maître de l'opéra comique italien, quoi, je veux dire. Donc j'adore Rossini. Et on utilise d'ailleurs, évidemment, en partie sa musique, en tout cas sur le générique de fin du film. Donc c'est venu de cet opéra.
En tout cas, vous allez certainement aller voir un très joli film si vous avez envie de voir de beaux paysages, si vous avez envie de voir Marseille sous un très très joli jour, en tout cas, de belles images, de beaux comédiens, une belle histoire d'amour. On vous conseille d'aller découvrir La Pivoleuse au cinéma. C'est mercredi 29 janvier que vous allez pouvoir le découvrir. La suite se prépare, Robert?
Oui.
Ou pas?
Oui, 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 j'ai un nouveau projet qui se passe à nouveau à Marseille, enfin, qui pourrait se passer ailleurs. En même temps, c'est vrai que l'histoire pourrait se dérouler ailleurs. Mais je tourne à Marseille d'abord parce que je suis né là-bas, parce que...
Ça ne s'entend pas.
Ça ne s'entend pas du tout. Je sais que ça ne s'entend pas du tout. Mais ça s'appelle Une femme aujourd'hui. Donc c'est un film qui raconte, je pense, d'une manière assez juste, ce qu'est la vie d'une jeune femme aujourd'hui.
Ça sera l'occasion de revenir.
Oui. Ben oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous. La Pivoleuse, ce 29 janvier au cinéma, on ne le rate pas. Et on se dit à bientôt.
À bientôt. Au
Merci.
Au revoir.
Oh, tiens.
Bonjour papa.
Tu veux prendre l'apéritif?
J'ai l'habitude de m'occuper de ses affaires. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui il loue ce piano?
Oui, bien sûr.
Madame Jourdan?
C'est moi.
Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon père loue ce piano pour vous.
Ça a recommencé comme avant. C'est pour le petit.
Qu'est-ce que tu lui donnes à part le piano?
Je vous demande de ne pas porter plainte. On remboursera tout à votre père.
Hey, ne bougez pas, Noémie Saglio, l'équipe du film Le Choix du pianiste et la chanteuse Stilto débarque dans Chut, on écoute la télé juste après ça, tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
J'étais ton cœur, j'étais ton amour. Ma tristesse, j'en ai fait le tour. Moi qui voulais être le soleil qui tous les matins te réveille. Je serai l'orage à ta fenêtre, à crier pour te faire perdre la tête. Je sécherai mes larmes, je soulèverai les montagnes. Je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé, même loin. Toi, je crierai ces mots. On s'est aimé, mais moi je t'aime. cette femme dans la rue que tu crois avoir reconnue. Je serai les nuages dans le ciel, je serai le tonnerre dans ton sommeil, je serai dans tes rêves et dans ta mémoire. Même dans le noir, je serai là pour laisser brûler les flammes, pour soulever les montagnes. Je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé, même loin de toi. Je crierai ces mots, on s'aimait, mais moi je t'oublierai.
La télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Salut, c'est Bertrand Huskla. Moi, chaque semaine, j'écoute Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur, plateforme de la semaine.
Allez, notre coup de cœur plateforme, vous le savez, c'est en ligne depuis vendredi sur Netflix, la nouvelle série française Supermal, réalisée par Noémie Saglio, dont on adore le travail. Bonjour Noémie, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors Noémie, Supermal, on va y retrouver un casting de dingue, je crois qu'on peut le dire comme ça.
Bah, c'est un casting en tout cas que j'aime particulièrement parce que c'est mes super chéris, Manu Payet, Guillaume Labbé, Vincent Hennen et Antoine Gouy que je suis depuis très longtemps. Surtout Guillaume Labbé que j'avais bien pratiqué dans Plan Cœur et Antoine Gouy que je pratique aussi dans mon film qui sort le 2 avril, Natacha Hôtesse de l'air, et que j'adore.
Alors, raconte-nous l'histoire en quelques mots.
C'est une série de troupes. C'est quatre amis quarantenaires qui vivent un peu ce qu'on vit tous, c'est-à-dire toute la merda avec couple, enfants, couples différents, familles recomposées, même si j'aime pas trop ce mot de recomposer, parce que pour moi, tout est famille. Et c'est un peu le thème de tout ce que je fais, d'ailleurs. Ça raconte vraiment ce que c'est que de vivre aujourd'hui et d'essayer de se déconstruire de tout ce qu'on nous a mis dans la tête et que c'est assez compliqué quand même.
Surtout que c'est une adaptation française d'une comédie espagnole, Machos Alpha. Je vous laisse faire la traduction déjà, ça veut tout dire.
Bah c'est ça, hein, Machos Alpha, on a failli l'appeler Mal Alpha aussi. C'est vraiment une série sur les Mal Alpha, sauf qu'ils sont plutôt très tendres et très mignons, les mains, c'est pas des méchants.
Alors, il faut dire quand même que dans toutes tes séries ou tes films, Noémie, il y a vraiment un socle commun, c'est l'amour, quand même, hein.
Je crois que je suis très attachée à la comédie romantique, à la tendresse. C'est vrai que je fais beaucoup de choses autour de ça, du couple, de l'amour, des complications, des enfants, de la famille. Je pense qu'on a tous envie de trouver notre place dans un nouveau monde qui est quand même assez complexe autour de ça, et d'être heureux, et que c'est compliqué. Et j'adore ça.
Alors avec ce casting de fou, t'as dû passer des moments derrière la caméra anthologiques.
On s'est bien marré, ouais. On s'est bien marré. Après, j'ai fait trois épisodes et les trois autres ont été faits par quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Olivier Rosenberg. Et on s'est vraiment, vraiment amusé. En plus, c'est mon mari qui produit.
Ça veut tout dire.
Oui, on est vraiment en famille. C'est très agréable.
Est-ce que c'est une série qui est faite pour être déclinée peut-être sur plusieurs saisons? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est relativement bouclé ou comme Plan Cœur, tu t'interdis pas peut-être de le développer sur deux, trois, quatre saisons?
Moi, je ne me l'interdis pas, mais il faut que le public soit au rendez-vous pour qu'on nous en signe plus.
On est là pour ça, aujourd'hui. Ça tombe bien.
Eh ben, écoutez, si vous regardez bien la série, que vous êtes nombreux, il y aura bien sûr une saison 2. C'est toujours comme ça que ça marche.
Noémie, dans ta carrière de réalisatrice, il y a vraiment des moments forts qui ont marqué d'une empreinte les spectateurs. Il y a Connasse, évidemment. et Planqueur, dont on doit encore certainement te parler, une série qu'on adore. On a eu le droit à un épisode spécial Noël. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait revenir aussi, Planqueur, ou c'est vraiment la boucle est bouclée?
Planqueur, on y pense. Hein, je suis très amie avec tout le cast et j'adore cette série. Après, si on revenait, ce serait plutôt sous forme en effet d'un film ou d'un unitaire. Et Conas, bien sûr, j'adore ce projet. Très amie encore avec toutes les personnes qui y ont participé, mais le problème...
C'est quand même toi qui as lancé Camille Cotin en France.
Je sais pas si on peut dire ça, mais...
Si, quand même.
Le problème, c'est que c'est de la caméra cachée, que maintenant, elle est très connue, donc on pourra plus jamais le faire. À part si on part très loin, en Australie.
En terrain connu.
Voilà.
Je donne l'idée à Laurie Tillman. La suite, pour toi. Donc, il y a un nouveau film qui va sortir aussi, début avril, tu disais.
Oui, j'ai un nouveau film qui va sortir qui s'appelle Natacha, hôtesse de l'air, qui sort le 2 avril au cinéma, avec Camille Lou, Vincent De Dienne, Antoine Gouy, Isabelle Adjani, Lucchini, un très très beau casting, Didier Bourdon, enfin un casting magnifique encore, donc j'ai beaucoup de chance. J'ai passé une des super dernières années à m'amuser avec des acteurs exceptionnels, des textes exceptionnels écrits par moi.
Voilà. Non mais c'est déjà très très bien. On parlait du casting quand même de Superman, des hommes, mais il faudrait mettre les femmes aussi à l'honneur. Alors est-ce qu'on peut dévoiler ce casting de femmes qui nous attend dans cette série?
Franchement, le casting, les femmes sont très très à l'honneur dans la série, et d'ailleurs c'est souvent ce à quoi les gens réagissent le plus.
C'est elles qui remettent tout en question d'ailleurs dans
exactement
la série.
Exactement. Il y a les génialissimes Mélanie Bernier, Ariane Mourier, qui est une actrice de théâtre, qui est une vraie découverte, en tout cas pour moi, mais moi je l'ai découverte au théâtre, et les gens sont en folie, en tout cas sur les premiers visionnages de la série. Alison Paradis, que j'adore, Mélanie Bernier, que j'adore, Olga Kurylenko, qui est sublime et qui est très drôle, contre toute attente. Et elles prennent beaucoup de place, en effet, dans la vie de ces hommes, parce que... Et Frankie Wallach aussi, une grande découverte.
Ah oui, qui a été primé d'ailleurs au Festival de la Fiction à La Rochelle en septembre dernier, dans le rôle d'une éboueuse qui nous a beaucoup émus, en tout cas.
Elle est géniale, c'est vraiment une fantastique comédienne aussi. Donc j'ai beaucoup de chance, non, vraiment, les gens viennent dans mes films maintenant. Avant c'était difficile de choper des acteurs, ça commence à venir.
Là, tu vois, t'as même chopé les journalistes, on est là pour toi en tout cas, pour te soutenir. Super Mal, ça vient d'être mis en ligne sur Netflix depuis vendredi. Si vous voulez voir la série, bien n'hésitez pas, voilà, à y aller, puis allez voir la bande-annonce pour vous donner envie, tout simplement, parce qu'on va vous la passer maintenant. La bande-annonce Super Mal, c'est donc dès maintenant sur Netflix. Merci Noémie.
Merci beaucoup.
On se dit à bientôt.
À bientôt.
Alors vous le savez, vous n'êtes pas là par hasard. Hein, vous êtes là pour vous libérer de la masculinité toxique.
Saloperie, ça. Je m'appelle Tom et je suis un mâle alpha.
Je suis dans le processus de création, quoi, en fait. J'ai trouvé un truc, là.
Tu m'écoutes, je pense que t'es incapable de pondre une BD depuis que vous êtes séparés avec Andrea.
On le dit, je veux être un homme meilleur.
Je m'appelle Jérém et je suis un mâle alpha.
Ça fait 6 mois qu'on n'a pas baisé, là. Donc voilà, pour aller droit au but, moi je suis crevée et Jérémy, bande mou.
Waouh, on dirait comme elle exagère.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma est consacré au film Le Choix du Pianiste, qui sort mercredi dans les salles. Un film de Jacques Hotmesguin qui est avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, et produit par Nelly Kevski qui est avec nous également. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. On se connaît depuis très très longtemps. Vous avez été les instigateurs de fictions en costume les plus belles de la télévision, comme La Maison des Rocheville ou encore bien d'autres. Et il faut dire que Le Choix du Pianiste ne nous a pas déçus pour votre production cinéma. On y raconte l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui tombe amoureux de sa prof de piano juive et qui lui fait découvrir la musique. Sa passion, évidemment, va grandir avec lui au fur et à mesure. Et puis il va y avoir plein de choses qui vont se nouer avec la guerre, puisque là, ce que je vous parle, c'est en 1925. Vous êtes tous les deux des habitués un peu des fictions historiques. Qu'est-ce qui vous a plu, en tout cas, dans ce projet, déjà Nelly, à produire?
Écoutez, d'abord parce que Jacques, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Ah, il y a André Manoukian qui passe et qui est dans le film.
Oui, tiens, André, il peut venir nous dire un mot. André Manoukian qui nous rejoint. Bonjour André.
Bonjour, bonjour Nelly.
Qui joue le chef d'orchestre du film.
Grosse responsabilité pour moi. J'ai pris,
Les cheveux légèrement gominés, tout va bien.
Très gominé. J'ai été obligé de me raser, c'était un traumatisme pour moi, mais c'est pas grave. En tout cas, je vais juste dire quelques mots. Je viens de voir le film il y a quelques jours. C'est ce que j'ai dit à Jacques tout de suite. C'est très rare de réussir un film sur la musique. C'est compliqué, je sais pas pourquoi.
Et en plus, c'est historique. Un film en costume et voilà. Qui nous ramène 100 ans en arrière.
En plus. Et alors, on va dire que les Français, sont pas les champions du monde de ça. Les Américains, ils y arrivent à peu près et tout, mais il y a des grosses ficelles. Là, on est dans le cœur de la musique classique. Il y a des scènes qui sont absolument géniales. C'est quand le pianiste joue justement en l'air.
En piano, ouais, exactement. Le air piano.
Et ça, c'est la classe totale. J'appellerai pas ça du air piano, j'aurais juste de l'évocation. Et quand vous évoquez la musique comme ça, c'est, moi, c'est un film qui m'a bouleversé. Bon, par contre, j'ai horreur de me regarder, mais voilà, j'arrête là et je vous laisse avec Nelly et Jacques.
Merci beaucoup André Manoukian qui vient de nous faire une petite incursion. Bienvenue. Alors Nelly, on parlait justement de ce choix d'aller vers la fiction historique en costume. Vous êtes un peu tous les deux les spécialistes dans ce domaine. Vous savez faire, vous êtes connus, reconnus pour ça. Et c'est ce que je disais, on n'est encore pas déçus là.
Bah, merci beaucoup, je suis ravie de tous ces compliments. Bah, c'est vrai que ce film m'a toujours tenu à cœur. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Alors il y a eu plusieurs versions et puis j'ai beaucoup travaillé avec Jacques Haute-Mesguine. Donc j'ai fait des fictions hystériques, comme vous dites, La Maison des Rocheville, Le Rêve d'Esther, Julien l'Apprenti, De Soie et de Cendre. Enfin voilà, il y en a eu pas mal. J'ai fait aussi des fictions historiques sans lui, hein, Zone Libre de Christophe Malavoie, le film de Laurent Hinman aussi, Je ne rêve que de vous. J'adore travailler sur l'historique parce que je trouve que de plus en plus, l'historique, on en a besoin. On a besoin de cultiver les gens, on a besoin de leur rappeler ce qui s'est passé pour que ça ne se répète pas. Voilà. En ce moment, on vit une époque très trouble, où l'antisémitisme est là, vraiment, et revient en galop. Donc pour nous, si vous voulez, c'est essentiel que le choix du pianiste ait une résonance. Alors évidemment, ce qui a été difficile, c'était le financement, parce qu'évidemment, on est dans un sujet qui est universel, historique, que souvent les décideurs n'ont plus envie de ça peut-être. Mais on a eu une équipe extraordinairement soudée autour de nous, et on a eu surtout des acteurs incroyable. On a 3 jeunes acteurs, Pierre Lagrange, Zoé Adjani et Oscar Lesage qui incarne le pianiste, plus André Manoukian que vous avez entendu tout à l'heure, plus Toretton, plus Nicolas Vaude, plus Laurence Côte. Tous ces gens-là sont venus, mais ils sont venus pour Jacques, ils sont venus pour le sujet, ils sont venus pour nous. On est une famille depuis tant d'années. André Manoukian, je l'ai fait tourner pour la première fois, donc dans une fiction pour M6. Donc Laurence Côte, elle a travaillé avec nous, elle a travaillé avec Jacques. Jacques l'avait choisi sur 3 couples Enquête d'Orage. Donc Pierre Lagrange, on la connaît parce qu'on la connaît du théâtre. Voilà, c'est ces comédiens qui sont venus. Vous savez, on avait un tout petit budget finalement. Hein. Ils sont venus, ils s'en fichaient complètement du salaire. Et j'avais un peu honte de leur proposer ce que je leur ai proposé. Mais il n'y a pas eu de problème, l'enthousiasme était là. Voilà.
En tout cas, ça joue très très fort sous la direction avisée de Jacques Haute-Mesguine. Un vrai défi aussi, ce tournage, puisqu'on a eu l'occasion de se croiser pendant Cérimania en mars 2024, justement où il était en plein tournage. Et tous les deux, vous m'aviez confié que le film serait prêt pour fin août. Vous avez relevé le pari haut la main. Mais c'était un défi de taille au niveau timing, c'est le cas de le dire, Jacques.
Ah oui, parce que Nelly avait très envie. Nous, on adore le Festival d'Angoulême, on y va tout le temps. Mais moi, j'ai jamais eu de film présenté. Nelly a eu déjà 2 films. Et moi, ça me paraissait aussi fou qu'on soit prêt à ce moment-là. Mais j'ai tourné rapidement, donc parce qu'on n'avait pas les budgets pour prendre du temps et s'étaler. Donc si c'était encore un pari sur la post-production, le montage, et j'ai eu une équipe de post-production absolument formidable qui m'a suivi, mais à une vitesse, moi-même je pensais que j'y arriverais pas. Donc on a eu un temps de montage absolument court, mais intense, et on a eu aussi pour le son un travail complet et rapide.
Alors, il faut savoir que le film avait été écrit au départ, le personnage de François, qu'on va découvrir, ce pianiste à l'oreille absolue, avait été écrit pour Gaspard Ulliel.
Oui, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à travailler avec Gaspard, il avait 15 ans, bon le destin nous l'a arraché, il a fallu donc revoir tout et ne pas abandonner ce projet qui était quand même assez beau. Et le fonctionnement de ce pianiste m'a été inspiré par des grandes figures comme Sanson François et d'autres grands génies, quoi. Et c'était aussi par rapport à la musique, un désir de la représenter comme on l'a jamais représentée, c'est-à-dire avec amour.
Et dans une fiction historique, c'est encore plus rare de découvrir une fiction historique en costume et qui parle de musique et encore plus de musique classique, de musiciens de cette époque-là. Je sais même pas si ça s'est fait aujourd'hui.
Nelly a rencontré des difficultés pour le monter parce que vous dites. C'est-à-dire, c'est des films qu'on fait plus. Parce que, on sait peut-être plus les faire. Et il y a une grande tradition de, chez Douglas Sirk et d'autres grands réalisateurs hollywoodiens où la musique a une place importante. La musique classique et ou la musique de comédie musicale. Mais on a perdu cette façon de faire. Et moi, j'avais très envie de retrouver ça. J'ai fait une série avec Ruggero Raimondi où la musique était présente. Il était un chanteur, c'est impressionnant, Ruggero Raimondi, c'est énorme. Et je me suis dit, peut-être qu'il fallait que je retrouve moins fort que la présence de Ruggero, quelqu'un qui soit plus proche de la musique au niveau instrumental. Et le pianisme est venu d'une façon complètement normale, naturelle, puisque c'est l'indispensable de la musique, c'est le piano. Et le pianiste, c'est l'homme vraiment avec son instrument. Et l'amour de la musique, elle est personnifiée par Pierre Lagrange qui joue Rachel. Cette femme, c'est sa vie, c'est ça, c'est la musique. Et que le destin s'acharne sur elle et la tue, c'est Mozart qu'on assassine, que c'est pas moi qui l'invente, c'est une réalité historique. Et là, ce qu'on voulait faire, et ce que je voulais réparer aussi, c'est que les régimes dictatoriaux utilisent la musique aussi à leur avantage. La musique ne doit pas être utilisée en politique. Elle doit être utilisée pour la beauté, pour l'amour et pour réfléchir.
Et des fois pour la trêve aussi, puisque l'on est en pleine guerre 39-45.
Exactement. Et là, et en fait, il n'y a pas une vraie trêve. La musique est là, elle est utilisée par les dictateurs pour trahir, pour mentir, pour pas montrer une belle image, la réalité de leur image. Et ils utilisent malheureusement la musique comme un instrument de mensonge. Et le mensonge, là, il est révélé.
Nelly, ça aurait été plus facile à le faire pour la télévision ou pas? Ou est-ce qu'aucune chaîne n'a voulu du projet et aujourd'hui était frileux par le sujet?
Alors, c'est pas exactement comme ça. Ils ont beaucoup hésité. C'est une proposition étrange au départ. Quand vous lisez un scénario comme ça, vous dites c'est destiné à qui, c'est à qui ça va plaire. Et puis concrètement, quand on lit les scénarios et que c'est les comités qui lisent les scénarios, avant on avait affaire à une ou deux personnes, des directeurs ou des présidents. Maintenant, c'est des comités qui n'ont jamais mis les pieds sur un plateau, qui ont appris les scénarios dans des écoles, vaguement, et qui ont surtout fait HEC, vous voyez. Donc, bon, ces gens-là, je comprends très bien que le scénario, ça ne les branchait pas. Mais en fait, c'est pas un refus catégorique, puisqu'ils ont beaucoup hésité. Ça a duré un an et demi, quelquefois. Et puis maintenant, ils vont le voir, et je suis sûre qu'ils vont l'acheter. Donc, je reste très, très positive. Et on a réussi notre pari. Franchement, on y a mis d'une autre parce que ça a été compliqué.
On va rencontrer justement les comédiens. Oscar Lesage, Pierre Lagrange, Joey Adjani et Laurent Scott vont nous rejoindre dans un instant. Mais juste avant, on va écouter la bande-annonce « Choix du pianiste », un film de Jacques Haute-Mesguin et produit par Nelly Kavski. Ça sort mercredi au cinéma. On écoute. Merci Nelly, merci Jacques. Et on revient juste après avec toute votre jolie tribu de comédiens. A tout de suite.
Quelqu'un m'a reconnu. Elle s'appelle Annette. Elle voulait tout savoir sur moi.
C'est votre professeur?
Elle s'appelle Rachel.
François est né pour la musique. Il lui suffit d'entendre un air une fois pour le répéter à la note près.
Vous voulez quand même pas faire de mon fils un pianiste? Ce n'est pas avec Mozart et Chopin qu'on apprend la comptabilité et le commerce.
Mais j'aime le piano.
Toi, tu te tais.
Je serai comme ta deuxième mère. Celle qui te fera travailler jour et nuit pour que tu intègres le conservatoire. Marguerite Long t'a recommandé à Paul Paré.
Le grand chef des concerts colonnes.
Si tu me dis que le concert s'est mal passé et que Paul Paré ne te garde pas, je me jette dans la scène.
Rachel, je veux pas que tu l'oublies.
Je peux pas me comprendre. Elle m'a tout pris.
Et on continue donc notre spécial Le Choix du Pianiste. On vous rappelle, ça sort mercredi dans les salles, chose promise, chose due. On continue à en parler avec les comédiens et comédiennes qui sont avec nous. On va commencer par les filles, on va être galants les garçons. Et on a justement Laurence Scott qui joue Marie-Christine, la maman de François. Bonjour Laurence.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Zoé Adjani qui est avec nous, qui joue le rôle de Annette. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Pierre Lagrange, qui joue le rôle de Rachel, qui est un petit peu, l'élément phare du film. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Et puis les garçons, Oscar Lesaffre, qui est avec nous, qui joue le héros de cette histoire, François, l'oreille absolue. Bonjour, Oscar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis André Manoukian qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre après cette petite incursion tout à l'heure. Il a dit « Je reviens dans Chute, on écoute la télé tout de suite. Je vais aux toilettes et je suis là. » Ça va André ? Merci d'être là.
Non, je venais rejoindre mes camarades, mais oui. Mais sinon, oui, il faut que j'aille aux toilettes. Non, je rigole.
Bon, merci d'être là. En tout cas, tous les cinq, c'est une histoire très belle donc, qu'on a trouvée. Et en plus, parler de musique classique, de choses comme ça pendant la guerre avec une fiction historique, c'est quand même quelque chose qui est hyper rare, voire même peut-être qui s'est jamais fait. Et cette histoire d'amour entre ce jeune garçon qui tombe amoureux de sa professeure de piano, que tu incarnes, Pia, et que tu incarnes évidemment Oscar, est très très belle à tout plein de niveaux puisqu'elle nous bascule sur plusieurs époques. Donc on va comprendre effectivement qu'à une époque... Rachel n'est plus là, que François va rencontrer Annette. Et donc, on va être transposé sur diverses époques différentes. Mais d'abord, on va s'adresser à la maman. Est-ce qu'il faut dire que les parents de François ont pas toujours été très tendres quand même avec Oscar et au début étaient vraiment contre qu'il fasse de la musique? C'était plus pour sa sœur.
Bah, je dirais plus déjà que c'est le père, en fait, qui a le rôle comme ça de la personne qui...
Très dur.
Voilà, très dur. Et on sent que la mère, quand même, elle est très vite dans le camp de son fils. Bah, surtout grâce à l'intervention de Pierre, enfin de la professeure, où elle se laisse convaincre.
Elle est complètement de son côté.
Voilà, elle est du côté de son fils, voilà, clairement.
La rencontre de ces deux personnages et de cet amour qui est en train de naître, Pia, qu'est-ce qui t'a plu en premier dans ce projet ? Est-ce que c'est ça, le fil des années, la décortication aussi au fur et à mesure des époques ?
Oui, je crois que le fait que ce soit une grande histoire d'amour, dont le cœur est la musique, je crois que ça m'a beaucoup touchée.
Voilà. En costume en plus ?
Oui, en costume, avec des vrais costumes d'époque, réellement, tout ça.
C'est un beau souvenir ?
Oui, très bien. Et très, très beau souvenir, je suis ravie d'avoir rencontré tous ces camarades-là. J'ai découvert le film... voilà, là, récemment, et je suis très heureuse de voir ces talents-là à l'écran et le résultat. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire de Rachel ? Comment tu as défini, toi ?
Je pense que c'est une boule d'émotion, j'ai l'impression, qu'elle même a un peu du mal à lire et à transcender. Faut dire que l'histoire d'amour charnel qui se passe avec le personnage principal, François, est pas si simple pour elle, mais ça, je vais laisser le public le découvrir. Cet amour central qui est la musique, en fait, les réunit, mais qu'en fait, leur amour à eux est presque... secondaire du point de vue de Rachel, je pense que tout à coup c'est un grand amour qui les embarque tous les deux, qui est un peu plus complexe pour elle, mais voilà. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi cette femme pleine de vie, passionnée dans une époque où être juive n'était pas la plus aisée des choses. Voilà.
Destin tragique pour le personnage de Rachel, en tout cas. Zoé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Annette, qu'elle, on voit plus après la guerre, cette rencontre entre François et Annette, alors que François est en pleine reconstruction un peu de lui, en quelque sorte, hein, après tout ce qui s'est passé.
Alors, pour moi, il est plutôt en destruction au moment où je le rencontre. Hein. Il n'est pas encore en train de se reconstruire. Il a plutôt...
Bah, l'aider, en tout cas.
Oui, bah, c'est pour ça. Il va plutôt être enfermé dans un trou au fond de sa cave à vouloir boire pour oublier, quoi. Elle aime aussi la musique. Elle va le découvrir grâce à la musique. Avant même de le voir, elle va l'entendre, quoi. Et c'est ça qui va lui donner envie d'aider cet homme. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée de se mettre soi, de mettre tout son amour, toute son énergie au service du talent de quelqu'un d'autre, quand soi-même, on n'en a pas. Voilà.
Moi, je la vois un peu comme sa sauveuse.
Oui. Oui, peut-être qu'elle n'en a pas vraiment conscience. Donc,
il ne va pas se livrer tout de suite quand même. Hein, ça va mettre un sacré temps. Alors François, incarné par Oscar, qu'est-ce que tu nous dirais toi sur François, Oscar ?
C'est dans le film quelqu'un qui va grandir très vite et de manière très violente. Donc en tant qu'acteur, c'est sûr que c'était un vrai défi, j'ai envie de dire. De passer d'un personnage très solaire, qui a confiance en la vie... en l'amour, en la musique et tout ça, et qui en fait va tout perdre, que ce soit sa famille, que ce soit son amour, que ce soit son statut au sein de la société, son honneur, qui va après être alcoolique, dépressif et tout ça.
Et qui va être victime un peu d'un chantage en quelque sorte, parce qu'il va devoir se rendre en Allemagne pour essayer de sauver Rachel.
Et puis justement, en fait, je pense que ce qui le fait... beaucoup souffrir là-dedans, c'est évidemment qu'il a aucune nouvelle de Rachel, il sait même pas si elle est encore en vie, il l'espère, mais personne peut le lui prouver. Mais c'est qu'aussi, en fait, l'amour principal de sa vie, qui est la musique, sa passion première, il la met au service du diable, enfin de ce qu'il y a de plus atroce dans l'humanité. Et donc c'est aussi ça, je pense qu'il se dégoûte de ce qu'il est en train de faire, il est en train de mettre son art au service de ouais de diable.
Du pire. C'est, non mais c'est très bien dit. Et André qui joue le chef d'orchestre, qui est à la fois très très attachant, très humain et qui a une certaine rigidité.
Je suis son chef d'orchestre. Je suis le premier qui est dans le film qui a noté son talent. Il va faire son audition et c'est là qu'il va rentrer dans le monde des grands. Son histoire d'amour marche pas, il en peut plus, ça marche plus du tout et il dit il faut que je me casse de Paris quoi. Et du coup moi chef d'orchestre, j'ai dit, bah si vous voulez le symphonique de Berlin cherche un pianiste. Et tout d'un coup il dit mais il y a pas des nazis là-bas? Bah ouais mais vous savez, et c'est ça qui est terrible et c'est la vérité, c'est que je dis oui mais les musiciens on est au-dessus de ça, puis il va pas y arriver ce Hitler quoi, c'est
la conscience quand même aussi d'avant 39 quand même aussi.
Oui, mais je veux dire, il y a surtout, quand vous êtes dans le monde de la musique, vous êtes dans un monde à part. Et à Berlin, il y a un gars qui s'appelle Furt Wangler. Et Furt Wangler, c'est le chef des chefs, c'est la Rolls. Donc, le gamin qui a un chagrin d'amour et qui dit « je vais me casser », son chef qui lui dit « si tu veux, tu vas à Berlin ». Et à Berlin, encore une fois, il y a Furt Wangler avant tout. Quand on est musicien, on pense qu'à ça. Et ce gars était un pur génie. Il a continué à jouer pour les Allemands, mais sans jamais faire le salut nazi. Dans l'orchestre, il y a un remplaçant, un jeune remplaçant qui s'appelle Karajan.
Jeune loup dans l'ongle.
Exactement. Et lui, les histoires, elles sont sorties il n'y a pas très longtemps, finalement, comme quoi il avait quand même pris sa carte au parti nazi pour continuer de bosser. Et d'une certaine manière, on lui a pardonné. Donc il y a aussi tout ce débat qui est passionnant, c'est-à-dire est-ce qu'on met le monde de la musique là où il doit être, c'est-à-dire au-dessus de tout, mais qu'est-ce qu'on fait aussi avec les contingences politiques? Et puis là où c'est classe, sans spoiler non plus, c'est qu'on voit comment les musiciens juifs sont traités. Et le chef d'orchestre que je fais moi, évidemment il est anti-nazi, mais il n'est pas communiste non plus. Et du coup, sa carrière, et ça, elle est inspirée d'un vrai personnage. Après la guerre, sa carrière, elle va pas être géniale en France, parce que comme il n'était pas communiste et que c'est les communistes qui vont prendre la culture en 1945, il a jamais collaboré. Au contraire, pendant la guerre, il est à Monaco et dans son orchestre, il accueillait tous les musiciens juifs qui se faisaient choper de partout. Donc, on est dans une histoire qui est à la fois subtile, qui est à la fois fine et qui place le débat ou sur la place de la musique. Et c'est formidable, c'est parce qu'entre la relation d'amour qu'il y a entre François et Rachel, c'est d'abord une relation musicale. Pour moi, hein, moi je le vois comme ça. Et puis l'amour vient après.
En tout cas, on va découvrir le choix du pianiste dans les salles. Ça sera mercredi. Et vous allez voir que vous allez vivre une très très belle histoire avec une fin magnifique, très poétique, qu'on vous dévoilera évidemment pas, mais que moi, j'ai beaucoup aimé et que j'espère que vous, spectateurs en tout cas, vous serez très émus par ce beau final. On vous invite à aller découvrir ce film à grand spectacle. Ça sera mercredi au cinéma, le choix du pianiste. Merci beaucoup.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé. Tout ne sonne pas si faux, c'est faux. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes. Celle qui reste après tout le vacarme. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute.
bien ma faute. Parfois je ne te reconnais même pas. J'entends le bruit sans entendre ta voix. Tu vois, je t'aime malgré tout ça. Oh, et maintenant je sais que c'est pas moi. Pourtant je suis tombée si bas. Avec toi je ne m'aimais pas. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Je pensais si forte, mais l'averse est passée quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent, ce sera plus jamais ma faute.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute la Télé.
Salut, c'est Franck Dubosc. Moi, chaque semaine, j'écoute Alain Jeanne dans Chute On Écoute la Télé.
La découverte musicale. Chute, on écoute la télé.
Allez, notre invitée d'honneur aujourd'hui, on n'est pas peu fiers de la recevoir, c'est la révélation musicale 2024. Stilto est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, nommée aux révélations, c'est pas pour rien, aux victoires de la musique. Ça c'est un beau rendez-vous qu'on va vivre d'ici quelques semaines sur le plateau de la Star Academy avec Ulysse. Bref, c'est un rêve en ce moment.
Ouais, c'est complètement un rêve. La Star Academy, c'était incroyable. J'ai vécu un trop bon moment avec Ulysse. J'ai rencontré mon idole, Nikos Aliagas, donc trop heureuse. Et ouais, les victoires de la musique, c'est incroyable. Franchement, j'arrive pas trop à y croire encore, mais je suis trop contente, c'est fou.
Comment a démarré le parcours de Stilto dans la musique? Raconte-nous.
Alors, le parcours de Stilto dans la musique, il a commencé avec des reprises sur Instagram. J'ai repris un peu à ma façon mes chansons préférées. Donc, j'ai commencé notamment avec Gaffe aux autres, qui est une chanson de Ben Mazuet et Jérémy Frérot.
Tu es très fan, je crois, Ben Mazuet.
Donc, je suis très fan. C'est mon chanteur préféré, complètement. J'adore sa manière d'écrire. J'adore les sentiments qu'il transmet à travers ses chansons. Et du coup, c'était trop cool, puisque suite à cette reprise, j'ai eu la chance de le rencontrer. On a pu travailler ensemble. J'ai chanté cette chanson avec lui sur scène. C'était trop bien.
Il fait partie des anges gardiens, un peu aujourd'hui, avec Arcadian aussi, par exemple, et les garçons.
Oui, exactement. Bah ouais, Arcadian, c'est une belle histoire, et Ben Mazuet, pareil. Franchement, je sais pas s'il aimerait que je dise ça, mais je le vois un peu comme mon tonton ou mon grand frère dans l'industrie.
Mon parrain?
Mon parrain, exactement. C'est plus stylé, mon parrain, et il m'a donné beaucoup de conseils que j'ai bien appliqués, et je suis trop contente.
T'avais envie de faire de la musique depuis ton plus jeune âge, ou est-ce que c'est venu un peu plus tard? Comment c'est venu ça?
J'avais envie depuis toute petite d'être chanteuse. J'ai retrouvé des journaux intimes où il y avait vraiment écrit à 8 ans mon plus grand rêve, devenir chanteuse. Donc vraiment, je pense que c'était ancré en moi depuis longtemps. Mais je me suis pas trop autorisée à le faire parce que je faisais déjà des vidéos sur internet où je racontais un peu ma vie. Puis j'ai continué mes études à côté. Donc du coup, j'attendais un peu, je pense, d'être prête vraiment à faire le grand saut. Et j'ai commencé il y a 2 ans, je me suis lancée. Et là, c'est vrai que ça devient de plus en plus sérieux. Et c'est fou, je suis trop contente d'avoir osé.
T'as été sérieuse jusqu'au bout, hein. Les études d'abord.
Oui, exactement. Bah, j'avais vraiment mes parents derrière moi qui me disaient « Allez, fais les études !» En vrai, c'est grâce à eux.
Bon, c'est chouette en tout cas. C'est un parcours sans faute pour l'instant. Malgré tout, on sait que la musique, c'est un sacerdoce. Hein. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Et malgré tout, est-ce que tu vois une émission comme The Voice ou La France a un incroyable talent ou La Star Academy que t'aurais voulu faire, par exemple? Est-ce que c'est des émissions que t'aurais voulu faire s'il y en a une?
Franchement, ça demande beaucoup de courage, je trouve, de participer à ces émissions. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux où tout le monde peut commenter chacun de tes faits et gestes. Mais si j'avais pu et si j'avais voulu le faire à l'époque, j'aurais beaucoup aimé faire la Star Academy. Parce que je trouve que c'est génial, tu rencontres des personnes qui ont la même passion que toi. Et puis t'es enfermé sans téléphone et tu travailles pour être la meilleure version de toi-même. tu prends des cours de chant, des cours de danse, c'est une super hygiène de vie et je pense que ça doit être hyper challengeant. Et puis même de faire des primes chaque samedi, ça doit être vraiment fou. J'aurais bien aimé.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu fais un joli parcours sans ça. Et c'est vrai que là, nommé révélation féminine de l'année 2024, c'est dingue. Comment t'as pris la nouvelle et comment t'as réagi?
Alors j'ai appris la nouvelle, j'étais dans la rue, j'allais récupérer mon chien, il pleuvait et mon label m'a appelé. Donc moi j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me faire engueuler, j'ai fait une bêtise. Et là ils m'ont annoncé la nouvelle et je me suis évidemment mise à pleurer et à sauter de joie en même temps. J'étais trop contente, j'avais pas le droit de le dire. Donc j'ai quand même dit à ma maman et à mon copain. C'est fou, j'ai vraiment du mal à y croire et je suis quand même trop contente parce que rien que le fait d'être nommée, c'est vraiment un immense honneur et une immense chance. Et quoi qu'il arrive, je suis trop contente, même si je gagne pas, parce que je suis avec Yoa et Solane, qui sont des artistes que j'écoute depuis longtemps et que j'adore. On s'entend hyper bien. Donc franchement, j'espère juste faire une très belle pressa le 14 février et que je sois fière de cette pressa même dans 2 ans. Et voilà, on verra.
C'est sûr.
Oui,
mais on compte sur toi. Faut que tu m'aimes. Ça a été vraiment le déclencheur. Je crois de tout ça aujourd'hui, il nous trotte dans la tête, il passe quasiment sur toutes les radios. Ça, c'est une fierté aussi, j'imagine, la première fois que tu t'es entendu à la radio.
Ah ouais, c'était fou. La première fois que je me suis entendu à la radio, je suis montée dans un taxi, puis j'allais à la gare, j'ai pris un taxi. Et au moment où je monte dedans, c'était Faut que tu m'aimes à fond, qui était déjà bien commencé. On était genre au deuxième refrain et j'ai dit au monsieur, ah monsieur, montez le son, c'est moi. J'étais toute contente parce que j'avais déjà vu des vidéos de gens qui m'envoyait quand Faut que tu m'aimes passait sur la radio qu'ils écoutaient, mais ça m'était encore jamais arrivé et c'est trop bien. C'est trop cool parce que c'est vrai que quand tu sors une chanson, tu sais jamais comment elle va être accueillie. T'espères toujours que les gens vont l'aimer et qu'elle va passer à la radio parce que ça permet de faire connaître encore plus le projet et la musique que tu fais, mais je savais pas si ça allait marcher et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que les radios ont été très gentilles avec moi et puis j'ai une super équipe et puis la chanson a plu donc c'est trop bien.
C'est une chanson qui parle beaucoup du besoin d'être aimé, mais aussi de s'aimer soi.
Oui, exactement. À la première écoute, on pourrait penser que c'est une chanson d'amour, mais en effet, à la base, c'est une chanson que j'ai faite pour les gens qui me suivent, parce que moi, j'ai grandi sur les réseaux sociaux et ça m'a amené beaucoup, beaucoup de positifs. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que l'image que j'ai de moi-même dépend beaucoup de l'image que les gens ont de moi. Et j'avais un peu envie de faire un pied de nez à tout ça et de parler de confiance en soi et un peu de dépendance affective aussi.
On l'écoute ?
Avec plaisir.
C'est parti. Stilto, Faut que tu m'aimes maintenant. Dans Chute en écoute, la télé, on revient juste après avec toi pour la suite.
Faut que tu m'aimes. Car moi toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. Faut que tu la trouves jolie, ma voix et mes poèmes. Quand même. Faut que tu m'aimes. Faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je suis blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il n'y aura pas de problème. Que la lune est pleine. Pourquoi j'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment. De plus être dans le coup, j'ai peur de plus être la même. Que tu me jettes pour la prochaine venue. Que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes. Sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes. Moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. Sinon je perds pied. J'sais plus où aller ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes. Sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes. Moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. C'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Faut que tu m'aimes. Sinon j'ai le cœur qui est pas tranquille. Faut que tu m'aimes. Que je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime. Que j'hiberne. Faut que tu m'aimes. Quand je crois plus à ce que je fais. Faut que tu m'aimes. Quand j'ai l'impression de tout rater. Faut que tu m'aides. Quand je me sens comme une merde. J'ai peur de plus être la même. Tu me jettes pour la prochaine venue. Que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes. Sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes. Moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. Sinon je perds pied. Je sais plus où aller ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes. Sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes. Moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. C'est n'importe quoi. Faut que tu crois plus en moi-même que moi.
s'emballent les mauvais démons. Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon? Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super?
C'est super.
Pourquoi j'attends toujours l'autorisation? Pourquoi y a pas de confiance dans ma maison? Pourquoi je cherche toujours à plaire? Dis-moi que toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes,
moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes,
sinon je perds pied, je sais plus où aller, ni comment je m'appelle.
Faut que tu m'aimes,
sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes,
moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes,
c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même, plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi.
Faut que tu m'aimes, voilà, j'espère qu'elle va vous trotter dans la tête une bonne partie de la journée. En tout cas, Stilto est avec nous, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. On va écouter ton nouveau single dans quelques instants, Fille Lacrymale, qui vient juste de sortir il y a quelques jours. Et il faut dire que tout s'enchaîne très très vite maintenant, depuis quelques mois pour toi. Hein.
Oui, oui, tout s'enchaîne très très vite et je suis trop heureuse d'avoir sorti cette chanson, qui parle du fait que je pleure beaucoup. Quand j'étais petite, j'avais un peu honte de pleurer tout le temps, parce que même quand je me mettais en colère, je pleurais, même quand... Il n'y avait pas trop de raison de pleurer, moi j'avais les larmes aux yeux très très vite. Et pendant mon adolescence, j'ai beaucoup essayé de le cacher. J'attendais un peu d'être seule chez moi le soir pour vider mes yeux. Même quand je regardais un film au cinéma avec des amis, je voulais pas qu'on me voie pleurer parce que j'en avais marre d'être la présidente du club Ouin-Ouin. Et du coup, j'osais pas. Et puis un jour, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas très grave de pleurer. C'est ce qui fait ma personnalité. Et j'ai commencé un peu à l'assumer et à le tourner en autodérision. Tu vois, genre, je disais aux gens, ah, je vais pleurer, mais t'inquiète, je suis pas triste, hein. Et c'est devenu un peu un running gag même avec mes potes. Et du coup, j'ai eu envie de mettre ça à l'honneur sur mon premier album avec cette chanson Fille Lacrymale. Et c'est trop cool parce qu'en fait, je me rends compte qu'elle parle à beaucoup de gens et qu'elle fait du bien à beaucoup de gens. Elle raconte que c'est pas grave de pleurer dans plein de situations différentes.
T'écris beaucoup, hein, je crois. Hein. T'écris, tu composes aussi.
Oui, j'écris beaucoup, mais je suis également très bien entourée. L'album, je l'ai fait. Il est pas encore sorti, mais quand vous découvrez,
on va en parler de ça. Ouais,
vous saurez que j'ai écrit la majorité des chansons avec Benoît Constant, Jérôme Ackerman et Vincha, qui sont tous les trois des amis que je connais depuis longtemps. C'est un projet vraiment familial. Et moi, j'adore écrire, mais parfois j'écris un peu trop. Et pour un premier album, j'avais envie d'être hyper bien entourée pour vraiment structurer et que chaque mot ait la bonne place. Moi, j'adore les mots. J'adore quand les mots ont un impact fort, quand ils sont bien choisis. Et j'adore un peu le chanter, parler avec beaucoup d'informations. C'est ce qui me plaît le plus. Un peu comme Ben Mazuet. En vrai, c'est une grande inspiration parce que lui, il fait ça extrêmement bien. J'ai déjà eu la chance d'écrire avec lui. J'avais l'impression d'avoir 8 ans à côté de lui tellement il écrit bien. Mais j'ai beaucoup appris de lui et c'est trop chouette.
Tu m'impressionnes.
Ah bon ?
Ouais, parce que je trouve que t'as hyper les pieds sur terre et qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe pour toi, on pourrait vite décoller. Et c'est vrai que voilà, tu m'impressionnes parce que tu restes les pieds sur terre, tu restes d'une simplicité dingue. Et aujourd'hui, on sent que tu fais la musique, en tout cas par la passion, quoi.
Ouais, bah c'est gentil déjà, merci. Et oui, déjà, bah en fait, je pense que j'ai pas trop le temps de réaliser tout ce qui se passe. Et en fait, j'avoue que je souffre. J'allais dire je souffre, c'est un mot un peu intense, mais j'essaie vraiment de profiter de chaque moment parce que moi, avec cette nouvelle aventure musicale, j'ai très très peur que tout s'arrête du jour au lendemain et que d'un coup j'ai plus la chance d'avoir cette visibilité que là j'ai la chance d'avoir en ce moment, tu vois, avec la Starac, les Victoires, les radios qui passent ma musique et tout. Donc j'essaie vraiment de profiter et de me dire que rien n'est acquis et qu'en fait c'est vraiment les gens qui décident, quoi, si la musique leur plaît, parce que tu peux faire la meilleure com possible, avoir les meilleurs contacts, in fine si les gens n'aiment pas, ça marchera pas plus que ça. Donc je croise les doigts que ce que j'écris et ce que je chante continue de toucher les gens et voilà.
C'est pour quand l'album ?
C'est pour quand l'album ? On n'a pas encore la date exacte, mais ça sera au printemps 2025.
Ah oui, ça va arriver très vite, là, dans les quelques mois qui viennent.
Ouais, ça va s'enchaîner, et j'ai trop hâte. Franchement, là, j'ai vraiment hâte. J'ai eu la chance de faire une tournée complète sans album, et c'était trop bien, mais du coup, c'était un peu comme une tournée en mode release party, tu vois, les gens découvraient les chansons. Et là, j'ai hâte qu'ils puissent les chanter très fort avec moi. Ça va être trop bien, cette tournée.
La scène, c'est quelque chose, j'imagine, que t'as hâte aussi de partager une fois que l'album va être sorti.
Bah complètement. Moi, j'ai commencé la tournée sans album. Je l'ai faite parce que je me disais, mais je sais même pas si j'aime chanter devant des gens parce que j'avais jamais fait ça en fait. Même devant mon petit ami, j'osais pas chanter. Et du coup, j'ai commencé avec des toutes petites salles dans des bars, des salles vraiment très intimistes. Il y avait à peine une scène. C'était vraiment 2 cm de scène. J'étais très proche des gens. Tout de suite, je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'adore les concerts, j'adore l'expérience live, que ça soit des petites ou des grandes salles, j'adore ça. Et je pense que ce qui me touche le plus, c'est quand je vois que Il y a une émotion dans le public, il y a une atmosphère, en fait, tu sens dans un concert quand l'atmosphère est pesante, si c'est une chanson triste ou si c'est une chanson, je sais pas, moi j'ai une chanson qui parle de la mort et je vois à ce moment-là qu'il y a un grand silence, parce que les gens sont attentifs, et puis j'adore que 20 minutes après, tout le monde est en train de sauter. En fait, j'ai l'impression qu'en concert, vraiment, les gens se lâchent, et moi j'ai toujours que les concerts que je fais, qu'on fait avec mes musiciens, c'est une safe place, et qu'on a vraiment envie que chacun se sente libre de faire ce qu'il veut, de pleurer s'ils ont envie, de hurler, de danser sans se sentir jugé. Et je suis contente parce que pendant la tournée, on nous a beaucoup dit, on a reçu beaucoup de messages qui disaient « Bah moi je suis venue toute seule, c'est la première fois que je faisais un concert toute seule et c'était trop bien. Puis j'ai rencontré une fille et on revient ensemble à un prochain concert. » Enfin, c'est trop cool ce qui se passe.
Tu vas faire une tournée d'été ou pas ?
Je vais faire une tournée d'été, elle a été annoncée. On commence normalement je crois en avril et puis après il y a une belle tournée de festival et une belle tournée d'automne et puis on finit la tournée de l'album avec un Zénith de Paris le 5 décembre 2025.
Ah la classe !
C'est incroyable. Mais on l'a annoncé bien un an à l'avance pour avoir le temps de le remplir parce que c'est quand même un challenge, mais c'est fou, c'est trop bien.
On rappelle le Zénith de Paris, c'est le
5 décembre 2025, n'hésitez pas.
Et ben voilà, vous pouvez réserver vos places et puis regarder. Voilà, j'imagine que tu as un site internet, il y a une page Facebook, il y a Instagram aussi, où vous pouvez retrouver toutes les dates aussi qui vont arriver bientôt.
Exactement, n'hésitez pas à venir.
Nous, on viendra, j'en suis sûr, on viendra te voir, évidemment, pour venir t'applaudir sur scène. L'album, c'est pour bientôt. On va s'écouter Fille Lacrymale pour terminer. En tout cas, merci infiniment de ces quelques minutes passées avec nous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Et bah beaucoup de bonheur, une super tournée et puis toujours continuer à aimer chanter.
Et pour la Saint-Valentin, l'amour de la musique et pourquoi pas une victoire.
Et pourquoi pas, mais sinon c'est pas grave.
On est là en tout cas, on te soutient. Allez, Stilto, on va écouter Fille Lacrymale et c'est un talent qu'on va suivre de très très près en tout cas et on vous tient au courant dès que l'album sort. Évidemment, merci à toi et à bientôt.
Ou à bientôt, merci.
Anniversaire, je pleure. À la fin du film, je pleure. Quand ils se marient, je chiale. Comme un enfant, mes larmes font des torrents de sel. Quand ils me quittent, je pleure. Quand c'est moi qu'ils quittent, je pleure aussi. Je sais pas si c'est normal et s'il y a des docteurs qui savent soigner les cœurs humides. Je suis une fille lacrymale, mais qu'est-ce que j'y peux? Paraît que c'est pas normal qu'un jour y aura plus une larme dans le fond de mes yeux. Je suis une fille lacrymale et même les jours heureux, je chiale quand ça va mal et puis quand ça va mieux. Je pleure aux enterrements de gens que je connais même pas. J'imagine leur vie d'avant et ça coule, ça coule, ça coule comme Niagara. Les yeux noyés dans le déluge, pas d'essuie-glace, pas de refuge. Ça tombe pour un mot, une mélodie, pour un air qui me rappelle à lui. Je suis une fille lacrymale, mais qu'est-ce que j'y peux? Paraît que c'est pas normal qu'un jour y aura plus une larme dans le fond de mes yeux. Je suis une fille lacrymale, et même les jours heureux, je chiale quand ça va mal, et puis quand ça va mieux. Un jour, il n'y aura plus une larme dans le fond de mes yeux. Je suis une fille lacrymale, et même les jours heureux, je chiale quand ça va mal, et puis quand ça va mieux.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Encore deux coups de cœur ciné consacrés aux Tuches, God Save the Tuches, avec Sarah Stern qui sera notre invité, ainsi que les producteurs Maxime Delaunay et Romain Rousse. On parlera de La Pampa également, le film d'Antoine Chevrolier qui sera également avec nous, avec Amaury Fouché, son comédien. Et puis on aura le plaisir de vous proposer une spéciale Béni soit Sixtine, le téléfilm événement diffusé sur France 2 avec Capucine Valmarie.
Le rendez-vous des stars.
tard. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.